problème, c'est la survie de l'État soudanais. Parce que la bataille d'El Fasher, qui va se terminer probablement d'ici peu de jours par la victoire des métis, c'est-à-dire de celui qu'on appelle encore le rebelle, alors qu'en fait il partageait le gouvernement avec son ennemi, le général Burhan, c'est un véritable dépiotage du pays. Et ça montre une chose, c'est l'influence des traditions coloniales. Parce que les gens disent toujours c'est une colonie britannique. Non, ça n'était pas une colonie britannique. On parlait à l'époque du Soudan anglo-égyptien. Et le mot égyptien lui-même était faux. On aurait mieux fait de dire anglo-ottoman. Parce que le Soudan, depuis 1821, et c'est un pays qui n'existait pas avant cette date, a été une colonie ottomane, c'est-à-dire de l'Empire turc. Et c'est ça qui est en train de partir en morceaux.
Quelles sont maintenant les raisons principales pour lesquelles la situation au Soudan continue de s'enliser, malgré les efforts de médiation et les résolutions internationales?
Oui, les efforts de médiation et de résolution internationale sont très minces. Il n'y a pas vraiment un gros souci. On fait semblant de s'en soucier du bout des lèvres, mais par exemple les conversations à Jeddah n'ont pas repris, elles étaient uniquement d'ailleurs sur le plan humanitaire et pas politique. En gros, il y a une négligence générale de la communauté internationale vis-à-vis du cas soudanais, qui est, Dieu merci pour la lucidité de M. Perriello, représente aujourd'hui au moins 150 000 morts, et pas 16 ou 20 000 comme le disent les Nations Unies.
Et quels sont les principaux obstacles politiques et militaires qui empêchent la résolution du conflit, en particulier en ce qui concerne les forces de soutien rapide et le gouvernement soudanais?
Il n'y a que eux qui sont vraiment les acteurs. Chacun a ramassé quelques petits groupes de milices derrière lui, mais les deux acteurs sont effectivement ceux-là. Et on ne peut pas rentrer dans l'histoire du Soudan, mais ils représentent l'un et l'autre deux morceaux de la réalité du Soudan ottoman, c'est-à-dire du Soudan du XIXe siècle, que les Anglais n'ont jamais démonté quand ils sont revenus au moment de la bataille de Karari en 1898. Ils ont repris toutes les structures de la colonisation ottomane. Et elles ont duré jusqu'en 1956. Et bon, ce qui est en train de se passer, c'est que après l'élimination des islamistes qui, pendant un certain temps, ont essayé d'introduire un tiers point entre ce qui sont les gens de l'Ouest et les gens du fleuve. Bon, ça a marché un certain temps, et puis, bon, en 2019, ça s'est effondré. Ce sont les vainqueurs, si on peut dire, face au mouvement islamiste, qui, d'ailleurs, essayent de recycler les islamistes en les tirant de leur côté, surtout pour le général Burhan, essayent de reconstituer un Soudan uni qui probablement appartient déjà au passé.
Quel rôle la communauté internationale, y compris l'ONU et l'Union africaine, peut-elle jouer pour influencer positivement la situation, et quelles sont les solutions possibles pour mettre fin à cette guerre et assurer une protection efficace des civils?
Il n'y a probablement aucune solution. Et ça va se vider sur le plan militaire. D'ailleurs, même moi qui connais bien le pays, qui y ai vécu, etc., je ne pensais pas, en avril 2023, qu'il y allait avoir autre chose qu'une série d'escarmouches. J'avais tort, il y a une guerre majeure, avec des aides extérieures pour les deux camps, et parfois les mêmes aides pour les deux camps en même temps, c'est le cas des Russes, et il n'y a pas de solution. C'est-à-dire, on veut toujours qu'il y ait une solution négociée, il n'y en a pas. D'ailleurs, d'une certaine manière, les combattants ont une certaine honnêteté, ils disent eux-mêmes rejeter toute possibilité de discussion. Ou poser des conditions qui ne tiennent absolument pas debout, comme quand le général Burhan dit « Oui, moi je veux bien négocier, à condition que M. Emeti annule ses forces armées et les renvoie chez eux. » Ce qui évidemment est très peu probable.